Bonsoir à tout le monde. Je tiens à remercier Corinne Le Carrère pour l'organisation de cet événement, de cette soirée. Elle nous accueille toujours de manière très sympathique et nous la remercions vraiment du fond du cœur. Alors, ce soir, on va présenter un livre qui vient de paraître dans la collection qu'on dirige à Liège. Ce sont les presses universitaires de Liège. Mais bien sûr, la direction est très variée, très internationale. Et dans la direction de cette collection, il y a aussi Marion et Pierre-Louis et d'autres amis et collègues. Cette collection, comme vous le savez peut-être, publie des monographies de sémiotique qu'on considère un peu avant-gardistes. Alors, je suis vraiment ravie de cette présentation. Je remercie toutes les personnes présentes. C'est un grand jour parce qu'on présente un livre important sur l'énonciation et sur ses développements contemporains. Marion Colablaise a écrit premièrement un livre très érudit qui répare des acquis en linguistique et les pousse à dialoguer avec la tradition grémassienne et post-grémassienne jusqu'à la sémiotique des pratiques, en incluant la sémiotique visuelle. Il s'agit aussi d'un livre théorique qui aborde les problèmes de la DXIS, de la marque, de la citation, de la relation entre langages différents, verbaux visuels ou syncrétiques de manière plus générale. Les théories classiques de l'énonciation sont mises en contraste avec les théories philosophiques telles que celles de Latour et d'autres anthropologues tels que Ingold et Malafouris. Donc c'est un livre théorique, un livre interdisciplinaire et c'est aussi un livre très technique. Il aborde des questions telles que l'énonciation énoncée, la science, les gestes énonciatifs, la praxis énonciative, les problèmes de la réénonciation et de l'invention, et propose un nouveau concept, la transénonciation, dont on discutera sûrement avec nos deux invités, Mathilde Vallespir et Pierluigi Basso, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à discuter de ce livre avec Marion. Je dis qu'il s'agit d'un livre de grande érudition, d'un livre théorique, très technique. Mais un dernier mot sur le fait qu'il s'agit d'un livre qui est aussi analytique, à savoir qui analyse plusieurs sortes de textualités pratiques, si on veut les appeler comme ça, très complexes, comme par exemple l'exposition muséale, mais aussi des textes plus classiques, littéraires, des images, des œuvres d'art multimédia, etc. Alors, je vous présente brièvement nos invités de ce soir. Mathilde Vallespir, enseignante-chercheuse à la Sorbonne Université, stylisticienne, spécialiste de poésie, musique et des textes philosophiques du XXe siècle. À ce propos, elle a écrit un livre très intéressant, paru en 2022, qui s'intitule « La pensée a-t-elle un style ?» Deleuze, Derrida, Lyotard, chez les presses universitaires de Vincennes. Alors, Pierluigi Basso, vous le connaissez bien, il est professeur et directeur du laboratoire ICAR à Lyon 2. Il a écrit plusieurs livres en sémiotique des arts et du cinéma. Il a aussi écrit un livre avec moi sur la photographie et en 2017, il a publié un livre un peu summa qui exprime la théorie écologique de la culture et qui s'intitule « Vers une écologie sémiotique de la culture » et il a paru chez Lambert Lucas. Maintenant, depuis 2023, depuis quelques mois, il est en accès libre sur le site de Lambert Lucas. Alors, Marion ne doit pas être présentée, mais bon, en imaginant qu'il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui ne la connaîtrait pas. Elle est prof émérite à l'Université de Luxembourg, elle est linguiste, sémioticienne du visuel et surtout spécialiste de l'énonciation. Ce n'est pas le premier livre, bon, c'est la première monographie sur l'énonciation, mais elle a déjà énormément abordé la question de l'énonciation sous toutes ses facettes. Elle a co-dirigé deux ouvrages fondamentaux, vraiment fondamentaux sur l'énonciation. l'énonciation aujourd'hui, 2016, et l'autre, les répétition et reproduction dans les arts et les médias. Je lui laisse la parole pour une petite introduction à l'ouvrage.
Merci, Maria Giulia, de tes mots d'introduction. Alors, je tiens également à vous remercier toutes et tous de votre présence. Vous avez choisi d'assister à ce débat à l'occasion de la parution de mon ouvrage intitulé « L'énonciation, évolution, passage, ouverture » et j'en suis touchée. Merci, Maria Giulia, qui a eu l'excellente idée d'organiser cette rencontre. Et tout particulièrement, un merci chaleureux à Pierluigi Passofossali et à Mathilde Valspir qui ont accepté de me lire. J'espère que la tâche n'a pas été trop rude et avec lequel j'aurai le grand plaisir de dialoguer. Je dirai quelques mots, si vous le permettez, pour lancer le débat. Au long développement qui pourrait être fastidieux, je préfère quelques touches impressionnistes en ouvrant le débat. Une précision d'emblée, mon ouvrage de 351 pages se décline en quatre grandes parties intitulées « Pour une sémiotique de la marque, défis et enjeux », « Actes, gestes d'énonciation et pratiques », « La praxis énonciative et l'invention » et enfin « De la réénonciation à la trans-énonciation ». Sa facture est un peu atypique dans la mesure où des développements théoriques, entrecoupés de nombreuses études de cas, alternent avec des ouvertures qui, tout en se nourrissant des investigations précédentes, ont une vocation plus exploratoire. J'ai pris quelques risques. Ai-je bien fait ? Nous le verrons. L'énonciation. En quoi la question de l'énonciation est-elle toujours d'actualité ? Du moins dans l'espace francophone. Serait-ce parce qu'elle continue à opposer des points de résistance, notamment parce que la sémiotique accueille plusieurs théories de l'énonciation. J'ai convoqué principalement celle de Jacques Fontani, qui considère l'énonciation comme un métalangage, celle de Jean-Claude Coquet, qui cherche à surmonter la séparation entre l'énonciation et l'énoncé à travers une approche phénoménologique du langage, et celle de Jean-François Bourdon, qui intègre la perception dans l'énonciation. Je fais également dialoguer, ou du moins interagir, la sémiotique et les théories linguistiques de l'énonciation, la philosophie et, plus lointainement, l'anthropologie. Évolution, je propose une vue d'ensemble des inflexions majeures que la notion a connues dans l'espace francophone depuis au moins les années 60, plus particulièrement en sémiotique grémacienne et post-grémacienne. En ce sens, mon ouvrage a une ambition plus panoramique, même si, cela va de soi, j'ai été amenée à faire des choix et je ne prétends aucunement à l'exhaustivité. Passage, j'essaie de contribuer au développement de la notion d'énonciation en mettant largement l'accent sur les passages, les traversées de couches de sens, les transitions, les stabilisations, les déstabilisations du sens, les traductibilités entre couches de sens. Je me fais ainsi l'écho d'un parti pris théorique largement présent à l'heure actuelle. Quelle est alors la charpente théorique du livre ? Elle est fournie par les théories linguistiques de l'énonciation inspirées globalement de Benveniste, et par les recherches en sémiotique grémacienne et post-grémacienne qui, je viens de le suggérer, donnent lieu à plusieurs théories de l'énonciation aux choix épistémologiques parfois divergents. Une des questions les plus ardues qui se soit posée à moi a donc été la suivante. Comment jeter des ponts entre les théories tout en veillant à une mise en perspective cohérente. Tout au long de cet ouvrage, j'ai voulu relever un certain nombre de défis. Je vous propose d'examiner de plus près trois champs de questionnement. J'essayerai d'être brève pour ne pas monopoliser le temps de la parole. J'ai hâte d'échanger avec mes discutants et avec la salle. Première question, comment dire le sensible ? Cette question n'est pas inédite. On songera notamment au numéro des littératures que Denis Bertrand et Jean-Claude Coquet y ont consacré en 2011. Mais dévidons la pelote à nouveau. J'aborde le sujet par le biais de la trace que j'oppose à la marque laissée par l'inscription dans un texte, d'une instance et d'une situation d'énonciation. Si la marque est bien traitée en linguistique et en sémiotique, je renvoie à la notion d'énonciation énoncée, la réflexion sur la trace m'a amené à scruter la manifestation linguistique d'une poussée énonciative, d'un jaillissement corporel. Telle est la question à laquelle je me suis frottée. Comment manifester dans le logos, au sens où l'entend Jean-Claude Coquet, l'expérience de vivre le langage comme le souhaite Merleau-Ponty, par exemple à travers le juron et le cri. Quelle est cette prise de position liminaire d'une instance qui est au monde, c'est-à-dire immédiatement confrontée avec un « il y a », avant « il y a quelque chose » et avant « il y a quelque chose pour moi », un « il y a » qu'il s'agit de percevoir en se tenant devant le monde, avant d'être dans le monde, que le recours à ce que Jean-François Bordron appelle le langage symbolique permet de dire. Spatialisation, articulation du temps passé, présent et futur, constitution d'un sujet d'énonciation. Et aussi, de quelle instance d'énonciation la trace est-elle la trace ? Du corps qui énonce, écrit Coquet, alors que le sujet s'énonce. Avec mes mots, on peut distinguer différents types de subjectivité, participante, être au monde, percevante, être devant le monde, et subjective, être dans le monde, comme je viens de le dire. Alors que la marque peut être considérée comme stabilisée, la trace est trace d'un quelque chose, d'indéterminé, et trace vers ce que ce quelque chose devient. Cela reste-t-il encore assez convenu ? J'ai voulu explorer une voie peut-être moins balisée en aiguillant la discussion vers la figure saillante dans le tableau « At Marginem » de Paul Klee. Je cherche à montrer en quoi une double logique ascendante et descendante, implicative et concessive, dit Résil Bober, vers un sommet d'intensité, un disque rouge qui s'ouvre au milieu de la toile, l'éclat intensif, et vers le déclin de l'intensité, les figures étranges peuplant les marges du tableau. Comment cette double logique permet-elle de faire émerger la saillance dans un texte visuel comme un événement de sens ? Mais là n'est pas le tout. Favorisant une analyse immanente du texte considéré comme un énoncé débrayé, j'essaie de montrer que le tableau est parcouru de tensions et qu'il donne à voir ces tensions réflexivement. Le disque rouge saillant est non seulement immédiatement reconnaissable, mais il concentre l'énergie qui se propage et qui monte vers lui à partir de la périphérie du tableau. Capture et intensification. Et cette énergie la redistribue quand l'intensité s'affaiblit en direction des bords, comme le montre le halo en forme d'étoile dont le disque est entouré. Les enjeux de cette double approche peuvent être importants dès lors que la question de la déixis ou déicticité, mais aussi de son découplage, voire de son dépassement, se fait pressante. Rappelons-nous que pour Jacques Fontani, la lecture phénoménologique du texte littéraire s'organise autour d'un centre déictique égo. Précisément, peut-on penser une déicticité floue, voire s'affranchir de toute déicticité ? La question touche entre autres à la préséance du débrayage sur l'embrayage, et inversement, qui a inspiré à la sémiotique et à la linguistique des positions divergentes, voire au dépassement de l'opposition embrayage versus débrayage. En faveur de substituts et de prothèses internes au texte, Claudio Paolucci se demande si on peut concevoir un appareil formel de l'énonciation affranchi de toute logique personnelle, subjective ou anthropoïde, je cite. On retrouve la problématique en linguistique qui apporte des réponses tout autres, par exemple à travers l'appareil formel de l'effacement énonciatif traité par Alain Rabatel. Est-il opportun, dans ce contexte, te rappeler que Latour ne conçoit pas de source syncrétique « je, ici, maintenant », que ce qui prime, c'est la relation. Pas de discontinuité, comme chez Grémas, mais la continuité d'une force exercée, c'est-à-dire de lignes de force. Mais aussi que gagnons-nous à penser une genèse de la DX6, mieux, une égogenèse, débouchant sur la mise en place d'une subjectivité plénière, ipséité, d'un « je » qui dit « je », pour parler comme Benveniste. On le sait, la praxématique cherche à rendre compte la transition d'un ensemble encore indifférencié vers une discrimination des personnes. Pour Coquet, le « je » entre en résonance ou en conflit avec le « on », voire avec le « ça ». Le « ça » sommes-nous renvoyés également à ce moment où, selon Deleuze et Guattari, l'instance est aspirée, happée par le devenir ? Ma proposition, une des propositions qui me tiennent le plus à cœur, est alors la suivante. L'installation du « je » comme sujet d'énonciation qui statue sur le discours, l'asserte et l'assume, le décrit et le commente, clôture une égogenèse. Celle-ci est portée en profondeur par un soubassement actentiel, par des forces actentielles collectives, plus ou moins anonymes, circulant dans ce que Deleuze et Guattari appellent un espace de forme acentré. Nous pourrons revenir dans la discussion sur le détail de ces actants qui ne sont pas conçus sur le modèle d'actant en deçant des rôles actentiels, par exemple entrant dans des relations fonctionnelles sujet-objet. Sur ces actants, que j'appelle transitionnels, timide ébauche de sujet, d'objet, pré-proto-sujet, pré-proto-objet, on, fluent, ça, transactionnel, nous. Un nous qui précède, peut-être annonce, l'émergence du je, qui n'est pas présupposé. Cependant, en passant de la trace au traçage, du dit au dire, j'ai visé à conjuguer ensemble l'énonciation énoncée et l'énonciation vivante, en relation avec le discours en acte. Je veux montrer en quoi la double orientation est présente dès les débuts de la réflexion linguistique. Par exemple, 1970 est une année charnière avec Benveniste, Todorov. Tout cela est bien connu. Comment renouveler la problématique ? Après avoir rappelé que Grémas et Courtès ont consacré des entrées du dictionnaire à l'acte et à l'acte de langage, et que Courtès, en 98, dans l'énonciation comme acte sémiotique, opte pour une narrativisation de l'acte d'énonciation comme acte de communication, je me penche sur le geste, qui peut être assisté par la machine. Le geste réunit plusieurs propriétés, à même de pousser plus avant la réflexion sur une dynamicité plus ou moins latente. Je renvoie aussi à un article capital de Pierluigi Basso à ce sujet. Le geste est processuel, précaire, provisoire, spectaculaire, interstitiel. Il a un soubassement sensible, il est transversal en ce qu'il fluidifie les échanges entre instances d'énonciation et environnement. Il instaure en ce qu'il fait exister une instance d'énonciation et un objet de sens textuel, par exemple à travers la rencontre esthétique. Il est spectaculaire, faisant voir et appelant le voir-faire. Je ne vais pas m'étendre davantage, nous aurons sans doute l'occasion d'en discuter ensemble. Juste ceci, j'envisage non seulement le geste collaboratif capté sur le vif, par exemple au moment de l'interprétation d'une pièce de musique par un orchestre, mais, défi extrême à mes yeux, le spectacle proposé par ce qui pourtant est supposé donner accès au seul résultat, stabilisé dans la modification de Michel Butor, un formatage particulier donne accès à une processualité que le texte littéraire s'empresse de mimer. Sur ces bases, je m'interroge sur les conséquences théoriques de ce basculement d'une approche de l'énonciation vers une autre. Une nouvelle fois, les enjeux sont très importants. Comment articuler le geste d'énonciation avec la pratique telle que l'a définie Fontani en 2008. Pour le dire de manière un peu abrupte, Ma proposition est de considérer l'énonciation elle-même comme une pratique, c'est-à-dire comme ce que Fontani appelle un cours d'action ouvert et fluctuant. Non seulement ce choix me paraît-il lourd de conséquences théoriques et pratiques, mais il présuppose des décisions radicales. D'abord, l'urgence est de donner à l'énonciation des limites, donc de la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Le danger du « toute énonciation guette » et de l'assimilation de l'énonciation à la sémiose. Face à cette urgence, je considère l'énonciation comme une pratique métadiscursive dans le sillage de Grémas et de Fontani, contre une définition de l'énonciation benvenistienne comme acte de solidarisation des plans de l'énonciation et du contenu. L'argument est bien connu. Ma position est la suivante. L'énonciation édicte les conditions, par exemple de possibilité et de faisabilité, de ce que Fontani et Cuéñas appellent en 2018 des régimes sémiotiques, mais aussi gère concrètement les modalités des productions sémiosiques, grâce en particulier à un dispositif énonciatif. Je prête une attention particulière à l'opération de la conversion en formation nouvelle des produits de la praxis énonciative, ceci à travers la notion de réénonciation. Par exemple, celle d'une photo par un texte verbal dans l'usage de la photo d'Annie Ernaux et de Marc-Marie, celle de tableaux de maître ou de photos de bâtiments par l'hyperphoto de Jean-François Rosier, celle de tableaux des 16e au 19e siècle numérisés, ensuite animés et insérés dans un vidéoclip par Rino Tagliafiero, ou encore celle des stratégies de l'hypertextualité numérique imitée dans un texte littéraire sur papier. Je renvoie à des écrits d'Éric Sadin. Dans ce cas, comment décrire ces opérations de conversion plus finement? En dégageant des styles. Ici, des styles de production de mélange, hybridation, bricolage, métissage, singularisation. Mais aussi en montrant que des choix s'opèrent à différents paliers de pertinence, l'environnement, le contexte culturel, économique, social, historique, le milieu, les médias, les médiums, supports et objets, les formats, notamment génériques, et les textes. Nous pourrons discuter de cette stratification qui a l'avantage, tout comme le parcours génératif de l'expression de Fontani, d'accepter un mouvement ascendant et descendant. Ainsi, le texte manifeste un choix de format, de médium ou de support, et porte la marque d'un système de diffusion et de communication d'un environnement ou milieu. Je le montre plus particulièrement à travers une analyse de la scénarisation muséale qui fait resignifier une exposition de photos d'Edward Steichen. En même temps, le débat gagne sans doute à confronter ce modèle par englobement successif avec tel autre de type réticulaire. Nous pourrons peut-être en reparler. Mais ce qui est vraiment fondamental également dans mon texte, dans mon ouvrage, c'est la notion de texte. S'il faut sortir du texte, et je m'intéresse à la question du contexte, à la situation sémiotique, je m'empare du texte sur des bases renouvelées que j'espère productives, en l'approchant sous différents angles, au moins celui de la textualité et celui du texte objet de sens. D'abord, comment rendre compte de la dynamicité interne au texte, de son devenir un texte, textualisation dans le sens linguistique du terme, avec ses anticipations, ses retours en arrière, ses bifurcations, ses stabilisations, ses déstabilisations. Ceci alors même que le texte est volontiers considéré comme un tout de sens, comme une sémiose fermée, selon Jacques Fontani. Comme une concrétion, dirais-je, qui est toutefois animée, souterrainement, par ce qu'on peut appeler avec Pierluigi Passo une configuration toujours précaire qui se cherche un mode d'expression. Par des forces qui se déploient, par le flux du sens, selon Fontani et Cuéñas, qui doit être régulé. Tel est alors l'enjeu qui me semble de taille. Fontani et Cuéñas envisagent le flux du sens sous l'angle du procès de régulation cursive du sens en relation avec la pratique, la forme de vie. Il s'agit d'un régime sémiotique différent de celui qui sous-tend la textualisation des textes, les niveaux n'admettant, disent-ils, aucune analyse continue. Je propose pour ma part un modèle intégratif avec trois couches organisées sous forme pyramidale, entre lesquelles des circulations sont possibles. D'abord un soubassement tensionnel, méta-modulation. Ensuite une strate intermédiaire où le « ensuite », le « et alors », le « pour », le « devant », le « contre », au sens où l'entend Étienne Souriot, ensemble avec des modalités et des altérations, subissent les pressions du soubassement tensionnel, mais aussi règlent en profondeur les rapports, également polémiques, entre l'homme et le monde, c'est-à-dire la couche supérieure. Concrètement, au moment de la rencontre, notamment esthétique, une instance d'énonciation en train de se constituer interagit avec un texte en devenir. À travers la réalisation des potentialités inhérentes, ils se voient tous deux accorder un mode d'existence, par exemple celui de l'artiste et de l'objet textuel, avec son support, sa matérialité, requalifié en objet d'art quand il circule dans un milieu artistique plus ou moins institutionnalisé. Un dernier mot rapide pour dire que la notion de transénonciation, introduite au terme de mon parcours, est centrale pour moi. Elle a vocation non point à supplanter celle d'énonciation, mais à en exhiber certaines facettes. La capacité à gérer des passages, des transitions qui impliquent des transversalités. Très brièvement, pour ne pas abuser de votre patience, des passages entre les couches du modèle intégratif, mais aussi au sein même de la textualisation et entre les niveaux de pertinence que j'ai détaillés tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Mathilde, c'est difficile de présenter le livre de Marion.
Oui, merci beaucoup Marion, vraiment de cette présentation qui permettait, je trouve, d'entrer vraiment directement dans les problématiques du livre et puis dans son caractère tellement vif, intelligent, tellement exaltant. Donc je peux le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé le livre de Marion, que j'ai trouvé vraiment impressionnant par la hauteur de vue dont il témoigne et puis par la façon dont il arrive à partir de cette hauteur de vue, constituer une sorte de parcours très personnel à travers cet ensemble de références et de disciplines et être sans cesse très prenant. J'ai trouvé que chaque page était porteuse de réflexions toujours très vivifiantes et j'ai trouvé qu'il permettait en fait d'aborder un ensemble de questions vraiment tout à fait fondamentales à la fois en sémiotique et à la fois d'ailleurs en philosophie. Alors peut-être ce que je voulais faire, j'espère le plus brièvement possible pour qu'on ait le temps de discuter, c'est de présenter un petit peu l'enjeu d'ensemble du livre, peut-être sa dynamique d'ensemble, et puis voir quelles questions il me semblait intéressant peut-être de soulever. Alors d'abord, il me semble qu'on pourrait formuler, alors je vais formuler autrement ce que tu as évidemment dit mieux que moi, donc je suis désolée d'avance, mais quant à l'enjeu d'ensemble, tu diras si tu es d'accord avec cette formulation, hein. Il me semble que le livre permet de saisir à partir de la notion d'énonciation, la relation du sujet au monde à travers la sémiotisation. Avec des nuances qu'on peut déjà poser, puisque la notion de sujet, tu la remets en question de manière tout à fait, tout à fait fondamentale, hein, avec la notion que tu as évoquée d'ailleurs tout à l'heure, hein, de déiticité flottante ou floue, sur laquelle on reviendra sûrement. Donc, il me semble d'ailleurs, c'est une conception de cette relation au monde et du sujet qui est qui permet d'ailleurs un passage de la phénoménologie à une conception désubjectivée. Hein, donc je trouve que ton approche, elle prend en charge, elle s'appuie sur une modification du paradigme de la pensée du sujet en philosophie. Et c'est ça qui me semble très puissant dans le livre, c'est la façon dont ta conception sémiotique, qui s'affirme de manière très nette dès le début du livre, il me semble, elle s'appuie sur une pensée de ces questions philosophiques en même temps. Alors, quant à la dynamique d'ensemble du livre, d'abord, il suppose une hauteur de vue et une originalité, il me semble, assez hors du commun. Cette hauteur de vue, elle est due, alors tu as parlé d'érudition, hein, Maria Giulia, oui, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais elle est due à une circulation à la fois, il me semble, entre les disciplines et aussi à la fois entre des points de vue différents. Et ça, ça me paraît particulièrement original, puisqu'à la fois, il se situe sur un champ très large, transdisciplinaire, qui va de la linguistique à la philosophie, hein, philosophie analytique, Wittgenstein, phénoménologie, hein, philosophie postérieure hein, des années 70, hein, notamment, tu as cité Deleuze et Guattari, qui sont une référence importante, à la sémiotique, elle-même parfois hybridée, j'allais dire, avec la philosophie, hein, comme la sémiotique de Jean-Claude Coquet, en passant par la linguistique textuelle, par l'herméneutique hein, de Denis Thouars, par exemple, la stylistique, la poétique, la narratologie. Bon, le champ des sciences du texte hein, est amplement couvert et de manière tout à fait impressionnante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que le terrain n'est pas seulement intralinguistique, mais travaille aussi l'exploitation de sources de ce qu'on pourrait appeler peut-être des sémiotiques régionales. Bon, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme quand on parle d'ontologie régionale, c'est-à-dire la sémiotique du cinéma, la sémiotique du visuel est particulièrement mobilisée. Et ça, ça me paraît particulièrement intéressant. Elle est mobilisée pour revenir à une sémiotique générale. Et ça, c'est quand même un geste, je trouve, théorique assez fort et productif et fécond. Par ailleurs, tu confrontes théorie et analyse d'œuvres, comme tu disais, Maria Giulia, hein, la théorie toujours mise à l'épreuve des œuvres, et à partir de là, repenser et réévaluer. Et puis aussi, c'est intéressant, je trouve, parce que tu mobilises aussi la pensée d'artistes et d'écrivains sur leurs œuvres. Et ça aussi, c'est assez original. Autrement dit, en fait, cette confrontation, ce dialogue, ce va-et-vient entre théorie, analyse, dans ces différents champs, est particulièrement fécond. Alors là encore, la présentation que tu évoquais hein, de ce qu'on pourrait appeler mais faussement des synthèses, parce que ce ne sont pas que des synthèses, et ces ouvertures, hein, avec ces ouvertures qui me semblent constituer des sortes de lignes de fuite de la réflexion, des prolongements, des prospections hein, suggestives. Mais il faut tout de suite dire que, en fait, la dimension prospective, elle se trouve déjà dans ce que je viens d'appeler abusivement des synthèses, puisque, en fait, c'est plutôt, il me semble, une façon de se frayer une voie, de manière magistrale et d'ailleurs très claire, très convaincante, à travers différentes théories hein, qui se trouvent convoquées sur différents points, réarticulées dans la ligne hein, de ce parcours que l'on suit sans aucune difficulté. Alors ça, il me semble que c'est une gageure aussi pour un livre, on l'a senti quand tu as parlé, hein, tellement hautement conceptuel et théorique, en fait, qu'on arrive très bien à suivre. On est guidé hein, depuis le début jusqu'à la fin par une forme dans laquelle il y a sans cesse des bilans, des perspectives, des conclusions. Hein, donc, on n'est jamais perdu, en fait. Donc, ce qui est quand même un avantage voilà, qui n'est pas négligeable parce que voilà, c'est évidemment une gageure en soi. Et il me semble que ce que tu présentes qu'on approche, si on essaie maintenant un petit peu de la caractériser dans son ensemble, avant de t'entendre à cet égard, donc c'est une approche bien sûr sémiotique, il me semble qu'il convient à la définition que tu rappelles de Klinkenberg de la sémiotique comme forme théorique de la transdisciplinarité. Et ça, je trouve que c'est vraiment une façon tout à fait, enfin, qui se prête tout à fait à ce que tu proposes. Et je trouve que le livre est une magnifique mise en œuvre de cette définition, par la façon qu'il a de travailler ces terrains disciplinaires voisins et différents, de les articuler, de passer de l'un à l'autre et d'opérer une construction théorique hein, à partir de là sur la question de la fabrication du sens. Avec un ensemble de présupposés théoriques donc, auxquels on peut arriver maintenant, il me semble, c'est-à-dire peut-être d'abord et fondamentalement le choix de notions dynamiques qui hein, s'appuient, comme tu l'as rappelé, sur cette sémiotique tensive hein, qui s'est développée en particulier depuis les années 90 et en fait qui correspond aux notions de la science moderne, il me semble, hein, qui sont liées en fait à la question des objets complexes. Comment rendre compte des objets complexes hein, comment le faire à partir de notions hein, telles que l'intensité, la dynamique, hein, notions sur lesquelles je vais revenir. Donc il me semble que l'énonciation ici, elle est utilisée comme une notion fédérant un ensemble d'autres notions, ou plutôt tu vas travailler pendant tout le long hein, du livre cette notion en faisant un parcours, en opérant un parcours de concept qui est orienté, qui répond à une dynamique intellectuelle hein, et conceptuelle que peut-être on peut essayer de rappeler là. Donc, pardon, je passe à mon autre support. Donc, alors si on le fait, ça peut paraître un peu bizarre de faire ça, mais on pourrait présenter le livre comme une sorte de parcours qui part de la marque, tu l'as dit, hein, et qui arrive à la transsémioticité en passant par la trace, l'égogénèse, la science, le geste sémiotique, la prothèse énonciative. Bon, je passe le dispositif, etc. Mais c'est vraiment intéressant parce que là encore, il y a une organisation d'ensemble, une dynamique qui conduit d'une notion à l'autre et qui permet en fait il me semble, vraiment peu à peu, de poser ton point de vue de manière de plus en plus précise en déplaçant le point de vue, hein, puisqu'on part du texte. On continue vers la question de la pratique, puis on passe à celle de la praxis que tu présentes comme un champ en fait de la pratique, et puis ensuite on passe à la notion de création et puis réénonciation, transénonciation que tu as évoqué. Ce qui me semble intéressant dans cette dynamique, c'est que je trouve qu'elle va quand même de manière assez nette vers des questions qui sont celles de l'artistisation hein, que tu évoques, hein, la relation entre esthétisation et artétisation, vers lesquelles le livre conduit peu à peu, hein, vers des questions qui sont toujours assez complexes d'ailleurs, hein, à partir d'ailleurs d'œuvres d'art relativement originales qui posent vraiment des questions sémiotiques, comme par exemple le nano-art que tu évoque. Hein. Il me semble que la gageure peut-être d'ensemble, enfin une des gageures du livre, c'est d'arriver à rendre compte dans une sorte de genèse dynamique, dans une temporalité du texte. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'envisager le texte en temps réel, qu'on peut le faire du point de vue de la psychologie cognitive par exemple, mais de réintégrer, réinsuffler de la dynamicité hein, dans, ou de la dynamique dans la façon d'étudier le texte et plus largement les différentes productions sémotiques et artistiques. Tout ça m'a vraiment tout à fait convaincue et intéressée. Tu en arrives, me semble, de plus en plus à des concepts de plus en plus personnels. Alors, tu as évoqué hein, celle de détixie floue sur laquelle je suis revenue. Il faudrait peut-être que tu reviennes aussi hein, sur une notion que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui est celle d'œuvre-lieu. Hein, au sein de la question des styles de production des mélanges. Dernier point que je voulais évoquer, j'espère que ma présentation n'est pas trop longue, c'est aussi la relation en fait à la philosophie et en particulier une certaine façon de présenter de manière sémiotique des problématiques philosophiques. Et là, je pense par exemple hein, dans la relation à Foucault à tout ce que tu dis sur le dispositif. Et finalement, la question du dispositif, tu la poses d'abord en termes foucauldiens. Et finalement, tout ce que tu proposes ensuite, c'est une appréhension sémiotique du dispositif auquel tu donnes finalement une dimension dynamique et une sorte de contenu descriptif, hein, typologique. Donc, c'est comme si finalement, c'était une façon de creuser une notion philosophique de manière sémiotique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment particulièrement intéressant. Peut-être là aussi, si tu peux revenir sur cette question. Voilà, donc en fait, c'était essentiellement ces questions-là sur lesquelles je voulais revenir. Et puis après, peut-être au-delà même, j'ai eu l'impression que tu proposais comme une sorte de ligne de fuite aussi des questions fondamentales sur la relation en fait du sujet, mais au sens très large, hein, désubjectivé, au monde, en fait, cette relation au monde. Et là, il me semble, j'ai eu l'impression que tu proposais des hypothèses, alors qu'il n'est peut-être pas présenté comme ça, et peut-être je radicalise abusivement, mais où finalement, il y avait même une conception selon laquelle c'est une conception de la sémiotique qui se passait, en fait, de représentation, et qui devenait une conception dans laquelle le sujet était en relation avec le monde de manière strictement écologique, et une simple relation en fait d'interaction. Alors ça, c'est peut-être une question que je voulais aussi te poser, mais voilà. Donc je m'arrêterai là.
J'essaie Merci beaucoup, Mathilde, de cette analyse extrêmement vivante, très précieuse, très détaillée. Donc, vraiment, merci. Alors, beaucoup de questions ont été évoquées. Donc, pour commencer peut-être par justement la question du sujet, c'est-à-dire que je ne liquide pas le sujet, mais je considère effectivement une égogenèse et le jeu comme, disons, l'achèvement de cette égogenèse. Donc, il clôture un processus. Et justement, j'ai essayé de montrer que cette égogenèse est elle-même portée par des forces que j'ai appelées donc actantielles, des forces plus anonymes, plus collectives, le ça, le on, un nous, mais un nous sans je, justement, qui porte donc cette égogenèse avec ses différentes étapes jusqu'au sujet qui statue, qui après coup finalement juge, détermine, commente, etc. Donc effectivement je ne me débarrasse pas du sujet, mais je réévalue peut-être la position qu'il occupe. Voilà. Donc, déicticité flottante, dans la mesure, justement, où il y a ce soubassement tensionnel donc, que j'ai évoqué, donc, et cette déicticité, comme si un jeu se cherchait et finalement surgissait de proche en proche, émergeait avec peine de proche en proche pour finalement s'installer au terme donc, d'un processus. Donc, Maria Giulia, tu as parlé de la tour. Donc, il y a évidemment... donc, est-ce que je dirais... donc, Paolucci est une source d'inspiration pour moi. La tour en est une autre. Donc, est-ce que, par exemple, les forces actantielles dérivent finalement d'un cours d'action, hein, donc, ce calcul à partir d'un événement, comme dirait Paolucci. Hein, donc, cela avant, justement, qu'une instance qui ne dit pas encore « je » prenne position, ce que j'appelle « au monde », devant le monde, et finalement dans un monde articulé au sens où l'entend, par exemple, Gustave Guillaume. Hein, donc, c'est effectivement une vaste question. La relation entre ces instances et le monde, effectivement, c'est une interaction que je conçois en termes de rencontres, hein, notamment de rencontres esthétiques. L'artiste, l'œuvre qui est en devenir, comme dirait Souriau, qui n'est pas encore faite. Et je pense cette interaction à partir d'un ensemble de potentialités qui se réalise peu à peu à travers justement cette interaction. Donc le sujet n'est pas fait, l'objet n'est pas fait, mais les deux sont ce que j'appelle cofondés à travers donc cette interaction. Oui, le texte effectivement constitue une notion absolument centrale. Et tu as parlé de la dynamicité. Donc la dynamicité est d'abord celle de la textualisation, hein, donc le devenir un texte avec justement ces moments de stabilisation, de déstabilisation. Un texte que je considère non point comme clos ou clôturé, mais comme toujours lui-même provisoire et en devenir. Donc finalement, plutôt que d'opposer des sémioses fermées à des sémioses ouvertes, comme le propose Jacques Fontani, je dirais qu'on peut considérer le texte également comme une espèce presque de pratique ouverte, hein, donc, qui connaît des moments de stabilisation, donc des moments de clôture, mais qui est aussi relancé, ceci en production, hein, donc à travers les reprises, les réénonciations, et aussi, bien sûr, en réception, tout texte étant toujours réinterprété et donc jamais clôturé de ce point de vue. J'essaye effectivement, par exemple pour la notion de dispositif, je pars de la notion de Foucault, d'Agamben, et ensuite j'essaye à partir de ce fond de constituer une notion de dispositif énonciatif qui m'est peut-être propre, hein, avec les différentes opérations que je dégage, la conversion, l'anticipation, etc. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui permettent de rendre compte de qui se rattachent à ce dispositif énonciatif. Donc effectivement, présenter peut-être de manière sémiotique ou réévaluer sous l'angle de la sémiotique des notions qui sont importées d'autres théories, en particulier philosophique. Donc il y a aussi, de ce point de vue, une certaine dynamique. Hein, donc comment emprunter des notions, comment les réévaluer, comment les aménager, comment les adapter à un nouveau contexte. Hein, donc la question est vaste. Hein, et c'est évidemment une gageure.
Alors, je dois vous dire immédiatement que, à mon avis, ces livres ne peut que représenter une œuvre de référence sur la théorie de l'énonciation, une œuvre même fondamentale, je dirais, dans laquelle la sémiotique joue un rôle de véritable médiateur, un rôle de médiation transdisciplinaire, comme Mathilde l'a déjà dit, mais sans renoncer à structurer une architecture, un édifice métalinguistique cohérent, basé sur un contrôle constant de l'interdéfinition des concepts mobilisés. Si je dois utiliser une métaphore pour définir les livres de Marion, je dirais qu'il nous propose une théorie de l'énonciation bien tempérée. Et la référence à Bach me permet peut-être d'utiliser aussi sa formule d'adresse de Bach. Bach a écrit pour la pratique, je fais la version pour les sémioticiens, pour la pratique et les profits de jeunes sémioticiens désireux de s'instruire et pour la jouissance de ceux qui sont déjà rompus à cet art. Alors, le bon tempérament, un usage du temps de Bach, permettrait toutes les modulations, l'usage de toutes les tonalités, mais en gardant des couleurs différentes pour chacune. Alors, les livres de Marion n'ont pas une vocation écuménique, une posture ironique. Le projet n'est pas d'accorder à tout prix des théories disparates. Il veut bien rassembler de bonnes raisons pour restituer l'énonciation à travers un prisme d'angles d'attaque et de couleurs différents. C'est une approche épistémologique qui veut composer des apports sur un plan horizontal de complémentarité, plans à travers lesquels observer comment une couche théorique peut devenir les soubassements d'une autre, chacune ne pouvant pas revendiquer un format heuristique exhaustif. Ainsi, le livre cultive en même temps la verticalité et la profondeur, et les tempéraments théoriques s'élancent alors les défis de parvenir à un cadre des réflexions ultérieures. Cela se manifeste aussi par les styles énonciatifs de Marion. Prenons page 81. Elle conclut un paragraphe très dense en disant « Ce point nous semble capital ». Et les paragraphes suivants s'enchaînent, attaquent immédiatement avec « Poursuivons sur notre lancée ». Quatre lignes après, nouveau paragraphe qui insiste « Continuons encore ». Alors, l'inépuisable désir d'approfondissement, de prise en compte des différentes tonalités et couches théoriques traverse l'ensemble du livre selon un rythme qui palpite inlassablement comme une partition de Bach. Moi, j'ai eu vraiment la sensation d'un rythme constant. En utilisant les catégories mobilisées par les livres mêmes, nous pouvons affirmer que cela est la trace énonciative d'une sensibilité théorique, la sensibilité des Marion, qui dépassent largement les marques de revendication d'une subjectivité, même si elles sont bien présentes. Il y a une sorte d'égologie théorique, si tu permets. Une voie théorique individuelle s'affirme enfin au-delà de la dette payée aux contributions d'autres auteurs, selon un système de citation très honnête qui cherche à restituer une généalogie des concepts au-delà des appropriations intermédiaires. Ainsi, prenons page 63, Marion peut passer de la citation d'une phrase de Détenitoire sur la notion de trace, la ligne après, une mention de la conception d'Héridienne de la trace, une ligne après, elle va reprendre la perspective husserlienne originaire, pas déformée par Derrida, s'appuyer par la suite immédiatement sur une assertion de Fabrice Ripoll, donc nous sommes dans la géographie sociale. Tout cela en 10 lignes, je comptais, pour terminer avec « nous dirons, nous considérons », marque de subjectivité qui se décline avec le même rythme que les citations, de sorte qu'à faire émerger la trace sensible d'un souffle théorique propre à une subjectivité participante d'un collectif sémiotique. Donc, le livre « Énonciation, évolution, passage, ouverture » est un livre complexe, très complexe, mais affirme une position claire que l'on peut résumer, je cherche à résumer, en disant « L'énonciation est un mouvement de constitution du sens dans lequel les instances promotrices sont à la fois témoins et protagonistes. Les instances sont témoins d'un flux du sens qui ne permet pas une sorte d'isolement, les formes de vie étant compénétrées avec leur environnement. Et dans cette perspective, les instances participent d'un sens qui déborde leur contrôle. Mais les instances sont aussi protagonistes parce qu'elles saisissent la possibilité d'instaurer, de mettre en scène des dispositifs d'individuation. Individuation réflexive, identité, et individuation transitive, altérité. Avec une image sans aucun doute hasardeuse, on pourrait exemplifier la théorie de l'énonciation de Marion en disant que même l'intonation la plus pure d'un jeu lyrique, celle de la poésie, si vous voulez, est toujours accompagnée par un ballet de figures anonymes sous-jacentes qui module les projets de sens comme une condition conjoncturelle. Cette tension ne permet jamais de réénonciation telle qu'elle, en tant que calque, je veux dire, d'un projet de sens précédent. Reprendre les fils d'une tension énonciative, par exemple déjà même descriptive, pas nécessairement lyrique, équivaut toujours à se reprendre, à se ressaisir. Au-delà de quelques passages assez denses, parfois impénétrables, je dois le dire, comme les premières pages consacrées à la transénonciation, là, les lecteurs vraiment... Avant de connecter de manière plus évidente, il faut seulement atteindre 2-3 pages, la connexion très claire entre transénonciation et la régulation du flux, du sens qui est sous-jacent, donc là où les instances sont des témoins, les livres ne se perdent pas dans les forêts, je dirais, enchevêtrées des théories, mais arrivent à des clairières bien nettes. Ça, c'est bien. On arrive à un certain moment. Il y a un panorama. Par exemple... les livres montrent que les mouvements énonciatifs sont reconstructibles à la fois comme prospection d'une égologie en formation, les marques mettent en avant l'émergence d'un sujet à même d'instituer son propre ethos, son propre image, par exemple, et comme rétrospection, mobilisant une mémoire encore active, les vestiges d'un ancrage dans les corps et dans l'expérience participative compénétrée avec d'autres formes de vie. Vous pouvez contrôler page 68, c'est parfait. J'aimerais, par exemple, te provoquer un petit peu en disant, quand j'ai lu ces passages, j'ai eu une image, les tableaux vivants. Le fait qu'il y a la marque de vouloir défendre à tout prix une position mimétique par rapport à un tableau déjà réalisé, donc c'est du marquage fort. Et en même temps, cette sensation que prolonger dans les temps l'immobilité qui est une tension naturellement incarnée, parce que c'est presque impossible de neutraliser totalement la tension musculaire, les énergies, etc., c'est immédiatement aussi traçage. Et donc, dans les tableaux vivants, la prospection et la rétrospection me semblent représenter une exemplification des simultanéités de deux... comment dire, un mouvement du sens qui vont dans des directions différentes. En ce sens, pour comprendre prospection et rétrospection à l'œuvre dans la même tension énonciative, voici une phrase qui a un rôle capital dans les livres de Marion. L'énonciation est mouvement, disons-nous, en ce qu'elle édicte, elle a déjà répété cette phrase, les conditions de l'effectuation des régimes sémiotiques et en gère les modalités. En même temps, les mouvements et les faits d'instance d'énonciation pourvus d'un soubassement sensible. Page 69. Vu que les chapitres 2 s'ouvrent avec de belles références à l'œuvre de Gustave Guillon, on pourrait conclure que l'on passe de la chronosyntaxe, du linguiste de la psychomécanique du langage, au format, si tu permets Marion, au format palindromique, d'une dynamique énonciative, étant donné qu'on voit apparaître, un peu comme dans les tableaux vivants, on voit apparaître dans la tension énonciative à la fois les principes de changement du soubassement sensible et le devenir, si tu veux, et l'être en puissance d'une écologie en formation, les deux choses en même temps. Il faut remarquer que cette vision de l'énonciation n'a plus rien à voir, pardon Marion, avec une énonciation en acte d'ordre métalinguistique qui s'auto-observe dans sa pratique. Justement, est à la fois in posse, in fieri et in esse, comme chez Guillon, au même moment, mais avec des sutures de sens qui vont en direction, dans des directions différentes, en amont et en aval. Au fond, cela semble montrer que la production énonciative est à la fois les fruits d'une conduite stratégique, d'un ductus, mais aussi la portée d'une expérience linguistique, du devenir discours de l'expérience, que l'on peut vivre seulement de manière tactique, avec des effets de solidarisation ou de fracture interne aux instances énonciatives. Donc je me pose un peu la question de la compatibilité entre cette vision métalinguistique que tu as trouvée dans notre tradition et cette vision impliquée de l'énonciation dans laquelle, comme tu sais, je pense qu'il faudrait utiliser plutôt une observation de deuxième ordre parce que finalement, on peut pas se penser dans un ordre méta, mais on est toujours dans l'entre-deux, dans un va-et-vient constant. Ces glissements de l'énonciation sur deux voies constitutives qui vont dans des directions différentes, prospection et rétrospection, abduction et rétroduction pour les Persiens, et pour moi, à mon avis, un point vraiment décisif, un aspect remarquable vraiment du livre, une position dans laquelle, en tout cas, je me retrouve parfaitement grâce au livre et à sa capacité de donner une détermination à cet aspect. Certes, le point de départ de ces mouvements associés et pourtant antinomiques reste à discuter. Car si ces glissements de sens partent toujours d'une division préalable du sensible et de l'intelligible, s'il y a toujours une sorte de réinitialisation des conditions du sensible et celle d'une constitution énégologique, s'il y a toujours cette idée de réinitialiser, de redémarrer, de recommencer, alors les risques de retomber sur des positions théoriques où l'on place d'un côté des jugements épistémiques, culturellement influencés, et de l'autre des jugements sensibles non corrigibles, inamendables, je ne sais pas comment dire, qui sont déterministes un peu, et donc des jugements pré-intentionnels, si tu veux, portés d'un fonctionnement, comme la portée du fonctionnement de la machine perceptible, et qui n'ont aucune relation avec la dimension symbolique. Donc je m'interroge si la sémiotique peut défendre une position finalement dans laquelle on peut vraiment discriminer, dissocier d'une part le sensible et l'intelligible, en tout cas l'appréhension épistémique donc filtrée par les symboliques, de l'autre côté une appréhension sensible dans le sens que c'est les corps qui semble décider de manière un peu autonome les déterminations préalables, une sorte de cadre de sensoriel préalable. Moi, je suis un peu sensible sur cet aspect. Un des premiers articles que j'ai écrit à ces propos, si tu permets, je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps, sur l'énonciation perceptive en 2002, avait un titre un peu étrange, sur les percepts tracés et sur les traces d'une co-implication. Il y avait une sorte de chiasme du titre. Est-ce que par le fait que nous nous engageons dans les parcours reconstructifs, nous engageons dans les parcours de reconstruction des traces sans ignorer totalement comment elles ont pu se tracer. Donc, la trace est toujours une trace, tu vois, qui a une mémoire, en tout cas, qui fait partie un peu de notre conscientisation aussi de l'implication dans les sens. Et en revanche, nous ne pouvons que nous rendre sensibles à la portée de marques que nous constituons. Donc, les marques aussi ont des effets collatéraux des ordres de trace, des ordres sensibles. Si cela est vrai déjà pour la perception, dans les cas de l'énonciation linguistique, la mémoire de l'ancrage sensible ne peut pas être totalement dépourvue d'une conscience, d'une implication originaire. Et en même temps, nous sommes aussi sensibles au traçage énonciatif, au projet énonciatif ouvert à l'exploration de ces effets perlocutoires qui restent indéterminés malgré la direction donnée à la circulation des images de nous-mêmes, de l'éthos que nous avons essayé de constituer. Voici un point que j'aimerais discuter un peu avec toi, Marion, cette séparation, tu as compris, entre sensible et intelligible, l'épistémique et le justement insensible, en deçà du symbolique. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de rentrer de nouveau sur ces états initiaux, auroraux, je ne sais pas comment dire, de la signification qui ont obsédé un peu la sémiotique à partir de sémiotique des passions. Je m'interroge si les pages magnifiques consacrées à la force actentielle collective dans la dernière partie du livre, l'effet d'opérer une révision vraiment courageuse de la notion d'actant, d'en proposer une typologie aussi, parce que tu proposes l'actant transitionnel, l'actant fluent, l'actant transactentiel. Si l'idée d'utiliser malgré tout, je veux dire, le terme actant et pas simplement force, tu as décidé à un certain moment de dire pas force, je préfère utiliser et réconceptualiser une notion qui a une longue tradition comme actant. Est-ce que cette idée de vouloir préserver cette notion d'actant est parce que finalement il y a une sorte de va-et-vient entre rétrospection et prospection, tracement et constitution d'instance, et donc cela peut-être empêche de voir un côté totalement pré sémiotique parce que s'il y a un va-et-vient un peu constant. Et finalement, est-ce que la déicticité flottante dont tu parles, est-ce qu'elle pourrait finalement, ne pourrait pas caractériser justement cet actant qui serait alors bifront face à deux flux de sens qui vont à la fois vers l'ancrage sensible et vers les projets écologiques, vers un ambrage inactif, et vers un débrayage éthotique, la constitution de l'éthos. Bon, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé les conclusions du livre de Marion, surtout l'ouverture sous la transénonciation. Si je dois raconter mon expérience de lecture, je dois vous avouer qu'au départ, je trouvais quelques problèmes de compréhension sur les liens entre la première partie pour la sémiotique de la marque, et la deuxième section du livre, Actes, gestes, énonciations et pratiques. Je peux peut-être dire quelque chose là-dessus pour inviter les lecteurs à éventuellement à dépasser ces difficultés au départ. Parce que si la première partie parvient à nous donner un modèle d'énonciation antiphrastique, palindromique, très original, la deuxième section, intitulée Actes, gestes, énonciations et pratiques, semble prolonger ultérieurement les défis théoriques, selon l'esprit exploratoire du livre, mais aussi peut nous faire douter d'éventuels retours en arrière. Par exemple, on annonce à page 114 que la première ouverture de cette section du livre creusera l'idée de la processualité du geste d'énonciation et de sa capacité à doter un objet de sens d'un mode d'existence qui peut suggérer un modèle prédicatif unilatéral, un modèle purement stratégique, finalement plus classique. Le geste qui donne, qui compose. D'autant plus que Marion fait référence à un niveau d'immanence supérieure qui a même, je cite, est à même de contrôler l'ajustement de plusieurs gestes parallèles, concomitants, peut-être concurrents. Donc on a cette vision, encore une fois, du général vers le local et le fait de tisser de manière stratégique et de construire une homogénéisation. Alors, la trace d'un ancrage sensible dans l'énonciation, première partie du livre, n'est plus une donnée alors constitutive, un arrière-plan inévitable dans la constitution du sens, mais les fruits d'un geste, et je te cite, qui confère à l'énonciation un soubassement sensible. C'est les gestes qui donnent un justement. Alors, c'est grâce à lui, que tu répètes, que l'énonciation est habitée par les mouvements, par un élan qui tend vers la production d'objets des sens, ici textuels. Page 176. Si le geste peut être confié même à la machine, tu dis, à un certain moment, les sensibles ont alors un effet de sens, c'est-à-dire, comme on, dans la musique électronique, le geste peut être produit machine, et on a un effet de sens incarné, même si le geste n'a pas été produit, effectivement, par un corps. Mais le geste ne va pas dans la direction, finalement, contraire, à savoir celle de prendre en charge une dimension sensible plus large que l'ancrage demandé par un simple acte d'inscription. Est-ce que le geste n'est une sorte de réintroduction d'indétermination ultérieure par rapport au fléchage, à la stratégie, à la possibilité de plier, de rendre servile même un support et de pouvoir projeter, débrailler tu vois, des figures de subjectivité. Autrement, on a la sensation de rentrer dans les modèles un peu précédents. C'est un doute hein, que je... Donc l'idée d'un geste, si tu veux, qui accepte de réintroduire des aspects qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas totalement. Donc la trace dont la première section du livre parle, c'est la trace du geste, ou c'est la trace d'une implication qui se déploie dans la dynamique d'énonciation à laquelle le geste assure une sorte d'amplification, de souffle ultérieur, moins d'ordre stratégique que tactique. Dans la deuxième section, la dimension de l'énonciation stratégique semble être privilégiée, à tel point qu'on affirme que les textes procurent une notation au mouvement de la textualisation dont le geste est responsable. Ainsi, sur le plan de la lecture, il s'agit de faire l'expérience du geste comme si le texte le montrait en train de prendre forme en temps réel. Hein ? C'est clair, hein ? Mais c'est l'idée que sur les textes, justement, qui donnent des appuis suffisants pour reconstruire hein, le mouvement. On peut remarquer en effet l'expression « comme si » le texte montrait les gestes en train de prendre forme en temps réel, de sorte qu'enfin on admet que ce geste est un geste signifié, bref, un geste fictif. Et tu utilises le terme « geste fictif ». Mais alors, la dynamique attestant une gestualité en acte n'échappe pas aux marges stratégiques, à la reconstruction fictive d'un geste idéalisé et enfin d'un ductus énonciatif. On imite, tu dis, on imite les déploiements du geste. Mais le geste énonciatif a-t-il réglé toutes les relations avec les contingences dans lesquelles il s'est réalisé ? Par exemple, dans la musique sérielle, la musique des années 50 du XXe siècle, l'objectif était de contrôler le plus possible toutes les variables acoustiques et même gestuelles, hein, tout en sachant que ce contrôle obsessif est destiné à échouer. Car toute une série de contingences ne pourront que signer les destins d'une exécution locale et la rendre incomparable, incommensurable par rapport, ou pas totalement incommensurable, à d'autres interprétations, sauf via la partition. C'est la conscientisation des limites du contrôle stratégique à avoir poussé les compositeurs sériels à renverser les relations et à imaginer alors plutôt des partitions modulaires, ajustables aux contingences et même à l'intervention, à faire intervenir le hasard. Au fond, on finit par donner au geste de l'exécution la détermination ultime d'une incarnation possible du geste initial. Les motifs deviennent de mobiles, de moments formels, des gestations catalysées par la situation, et non seulement stratégiques, catalysées par la situation. Même un écrivain maîtrise-t-il vraiment l'énonciation éditoriale, par exemple ? C'est un peu exagéré, mais je veux aller jusqu'au bout. Petit espace implémentation, la page de son projet scriptural. Même les écrivains plus sériels, qui ont pensé la page, les blancs, etc., doivent tôt ou tard lâcher prise et accepter que finalement, il y a quelque chose qu'ils ne contrôlent pas vraiment. Et alors, le lecteur du livre a peut-être du mal à comprendre l'enchaînement entre une section dans laquelle le geste est stratégique et à même d'inscrire une dynamique sensible dans la textualisation, paragraphe 1.2 de la deuxième partie, et la phrase du paragraphe suivant dans laquelle on dit, et tu réaffirmes totalement la première partie, « Tout geste est en proie à une tension fondamentale entre, d'une part, une maîtrise qui rend les résultats prévisibles et, d'autre part, un réinvestissement subjectif qui peut être amené à composer avec l'imprévu. » Et je souligne cette deuxième partie. Et ensuite, encore, le livre reconnaît effectivement que le geste est conçu comme un proie à des débordements, comme quelque chose qui provoque un événement de sens, c'est qui change totalement sa nature, sans pouvoir être plus compatible avec l'idée d'une énonciation, un acte guidé unilatéralement par une partition. Tu vois, moi je suis totalement convaincu de tes conclusions. Il y a des phases intermédiaires dans lesquelles je vois encore quelque chose qui m'interroge, parce que si tu commences à reprendre l'idée de totalisation du sens, par exemple, est-ce que c'est compatible avec la réponse que tu as donnée à Mathilde en disant le texte est encore quelque chose de pratique, quelque chose qui est encore ouvert, n'est pas totalement en opposition avec la pratique. Et tu vois que quand tu écris là, tu as besoin de réécrire un peu la variabilité du sujet pour reconnaître par la suite qu'il y a aussi l'événement de sens et il y a aussi alentour un geste qui doit épouser la contingence de l'entour, un peu comme dans la première partie du livre. Je peux raisonner ensemble, hein, c'est pour montrer que l'aspect innovateur du livre de Marion est de penser que les caractéristiques du geste qui passent de l'organisation d'une partition au débordement vers l'environnement, et même à des gestes éventuellement corrélés à d'autres instances qu'au présent, ces caractéristiques peuvent réunir et composer une suite définitoire. Le geste, c'est ça la complexité du texte, la capacité de tenir ensemble des choses qui sont, comme dire, des formes d'équilibre, de compensation. Le geste, dit Marion, est processuel, il est en charge de processus. Instaurateur, plus exactement, il édicte les conditions d'instauration et gère les modalités. Il est provisoire, et donc là, je lis, ouvert aussi à épouser la contingence. Spectaculaire, incarné et collaboratif. La compatibilité entre les six qualifications différentes du geste est réaffirmée à la fin de l'ouvrage. Le geste énonciatif est à la fois un acte programmateur, une incarnation d'une mise en situation, si tu veux. Et alors, la solution théorique trouvée par Marion semble combiner l'ambition et la vulnérabilité de tout projet de textualisation, une sorte de proportion énonciative qui catalyse d'une part des effets impulsés et d'autre part, des valeurs qui appellent une certaine forme de gestion et de réappropriation. On va profiter des valeurs émergentes. Voici les modèles intégratifs. C'est ça que je trouve vraiment l'aspect clé, je veux dire, de ton modèle intégratif, qui parviennent à concilier les paradigmes de l'énonciation énoncée avec celui de l'énonciation en acte, mais à mon avis, il va bien au-delà aussi de ça. Les marques de l'énonciation sont les fruits d'un geste qui guide les processus d'instauration de valeurs à travers des marques fictives, tout en ouvrant un soubassement qui permet de les réapprécier selon une proportion donnée à la tâche, comme trace d'une égogénèse, d'un quasi-sujet, voire d'un no-sujet, selon la terminologie de Jean-Claude Coquet. La partition modale de la textualisation et les flux de modalisation du sens sous-jacente peuvent trouver alors une conciliation dans les gestes énonciatifs. Cette conciliation est un résultat probant, une réussite majeure du travail monographique de Marion consacré à l'énonciation. J'ai encore un petit moment. Si nous permettons une dernière observation, c'est pour entrer de nouveau dans les débats et pour partager la réception du livre de Jacques Fontanier et Nicolas Coignas, Terre de sens. Marion semble attribuer à l'idée d'énonçabilité, un rôle fondamental dans l'évolution de la théorie de l'énonciation. Les renvois à la notion d'énonçabilité affirmés au début du livre, comme même dans la dernière page, je crois. C'est pour Marion une idée phare. Mais tout comme l'idée que derrière l'énonciation textuelle, il y aurait un projet de totalisation du sens, hein, phrase qui est reprise plusieurs fois, une phrase qui me semble peu compatible avec la théorie du geste énonciatif que tu as élaborée, l'idée plus générale d'énonçabilité semble diverger des propositions théoriques majeures contenues dans ton livre. Rappelons les dispositifs de l'énonçabilité proposés par les groupes Limousin. Cette section de Terre de sens est co-signée par 6 auteurs. Ce modèle implique 3 niveaux. Les régimes sémiotiques, l'enjeu de l'effectuation, l'agence donc associée au régime sémiotique. Pour actualiser un régime sémiotique, on a besoin d'une agence. Pour avoir une agence, on a besoin de conditions énonciatives spécifiques pour que chacun des régimes sémiotiques soit doté d'une agence effective. La présentation en séquence des niveaux cache un modèle d'emboîtement de conditions de possibilité. Des conditions énonciatives surplombantes liées à un cadre anthropologique, disons, une ontologie, si tu veux, permet d'associer un régime sémiotique à une agence individuelle ou collective, cette dernière assume et rend opérationnelles des conditions énonciatives. Ça, c'est le modèle de l'énonciativité. Alors, je me pose la question sur le droit, est-ce que ton livre va cautionner, va valider cette vision hiérarchique et stratégique, finalement, de l'énonciation ? Parce que s'il y a une opération de guide, de structuration, d'organisation stratégique d'un niveau sur les autres, et à tel point qu'on parle de conditions de possibilité, quel est le point de vue émergentiste, la vision palindromique, hein, les deux sens, les deux directions que tu as essayé de... Et par ailleurs, si tu vas regarder dans la je sais pas si vous avez lu la présentation des plans de pertinence dans ces livres, efface le terme stratégie. On voit dans les mêmes niveaux forme de vie et pratique, il n'y a plus le terme stratégique, mais pourquoi? Pourquoi tout le modèle est stratégique? Tout le modèle, la stratégie est partie, est partout. Alors, le flux du sens dans les livres de Marion, les soubassements dynamiques, sensibles, affirment un traçage en continuité de l'expérience, une sorte de significativité constante de l'implication. Et en revanche, dans les livres Terre de sens, on dit littéralement, je cite, que le processus impose des conditions énonciatives à partir d'un point de vue intégré, d'où le terme totalisation du sens, tu vois, sur lequel s'est fait la régulation du flux. C'est fait la régulation du flux. Et donc, ils disent aussi la dimension épistémiotique. Donc, voici une question, si tu veux, majeure à discuter qui soulève ton livre, parce que, à mon avis, ça dépasse un peu cette perspective de l'énonçabilité, la compatibilité du modèle intégré que tu proposes et les critères d'énonçabilité de terre de sens, dans lesquels les débordements de sens ne semblent plus possibles à partir d'un regard, justement, surplombant. Stratégique avec une recherche de sens totalisant. Bref, tu as proposé un modèle intégré, mais moi je n'arrive pas à intégrer la réussite de ton livre dans la portée des contributions précédentes. Et ce qui montre que, je l'espère, toute l'actualité et l'originalité des tantes contributions. Une voix, V-O-I-X, hein, voix qui se démarque, ta voix qui se démarque, une voie pour nous, si tu veux, un nouveau chemin qui se trace. Voilà.
Voilà, c'est évidemment tellement riche, tellement complexe, que j'aurai beaucoup de mal à réagir à chaud. Donc il faudra que j'y réfléchisse longuement. Mais ce que je peux peut-être dire, c'est qu'effectivement, tu mets le doigt là où le bât blesse. Effectivement. Donc... comment concilier, je retiens ce point, comment concilier donc l'adoption finalement d'un modèle métalinguistique de l'énonciation avec par ailleurs cette implication, comme tu dis, dans l'énonciation, ce plongeon, cette immersion, si on peut dire. Bon, j'ai vu le problème. Donc, cela ne me surprend pas que tu l'évoques. Je l'ai vu et j'ai voulu trouver une solution à ce problème en disant que donc non seulement l'énonciation édicte les conditions de possibilité, mais aussi de faisabilité, de félicité, pourrait-on dire, et d'infélicité, et que d'autre part, il gère les modalités même de la production sémiotique. Donc, c'est ainsi que j'ai voulu, en fait, concilier les deux, parce que j'ai vu le problème. Donc, je ne sais pas si ma réponse te satisfait, mais en tout cas, c'est ainsi que j'ai voulu. Mais de manière plus générale, séparer l'intelligible du sensible, les dissocier pour des raisons d'analyse... C'est un parti que j'ai pris, effectivement, c'est un choix que j'ai fait. Je pense, tu parles du symbolique, justement. Symbolique, je l'entends au sens où l'entend Jean-François Bordron, c'est-à-dire l'instance qui a recours à des règles, à un langage, à des déterminations, etc. C'est en ce sens-là que j'entends le mot symbolique. Donc, moi, j'ai voulu effectivement mettre en avant une égogenèse, un peu comme le fait aussi la praxématique, c'est-à-dire l'advenue progressive de cette instance qui dit « je », finalement, et qui statue rétroactivement sur ce discours qu'elle commente, qu'elle évalue, qu'elle juge, etc. Donc, il me semble que de là découle également donc la différence entre la marque et la trace. La trace qui, comme tu le dis fort justement, est évidemment aussi répétition, donc aussi retour en arrière et projection. Cela va de soi. J'ai peut-être entre la marque et la trace. Oui, je vais m'arrêter. Donc peut-être juste, s'agit-il de différentes phases ? De différentes phases, la marque étant stabilisée par rapport à la trace qui est en devenir. Voilà. Bon, merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Pierluigi, merci Maria Giulia.